Rosny aîné, la montre à Madame Léon Robert. Avez-vous la superstition des objets familiers ? Demanda Renens. Moi, j'éprouve tantôt de la crainte, tantôt une sécurité mystérieuse, en compagnie de certains meubles, de certains appareils, de certains bibelots. Je ne suis pas du tout certain qu'une chaise soit un objet inerte, ni qu'une statuette soit l'équivalent exact de la matière dont elle est formée. Abstraction faite de ce que la question a d'hyperbolique, je répondrai volontiers que la vie d'un morceau de bois me paraît bien différente selon qu'elle a été taillée dans un but d'art ou d'utilité, ou qu'il reste à l'état de bûche. Une mécanique quelconque offre, à mon avis, une physionomie extrêmement inquiétante, et le fil de métal engainé de soie qu'on enroule autour d'une bobine devient-il pas un étrange personnage électrique ? J'ai hérité d'une montre du XVIIIe siècle, un oignon d'or dont 125 ans d'usage n'ont pu déranger le délicat et solide mécanisme. Son individualité, si j'ose ainsi dire, s'est d'autant mieux conservée qu'il a reçu les soins constants d'une lignée ininterrompue d'horlogers de bisaïeul, l'aïeul, le père et le fils qui nous l'ont traité avec un pieux et intelligent respect. J'espère ne pas vous paraître fou en affirmant que cette montre est gaie ou triste selon l'état de l'atmosphère et qu'à l'approche d'événements graves pour notre famille, il lui arrive souvent de retarder ou d'avancer pendant la période critique. Je serais assez en peine de prouver la première assertion. C'est une question de flair. Quant à la deuxième, notre livre de mémoire en fait foi pour un grand nombre de circonstances. Peut-être y a-t-il bien du hasard dans tout cela. Je ne nie pas la puissance de ce grand maître des destinées. Et cependant, je crois que le plus sceptique d'entre vous demeurerait rêveur si je lui lisais cette partie des mémoires de ma famille qui, depuis 1777, est consacrée à notre montre. Ce serait long et les dames s'impatienteraient de mon absence. Je me bornerai à parler de trois ou trois traits topiques. En 1793, mon arrière-grand-père, inscrit sur la liste de l'immonde Fouquier-Tinville, s'était réfugié au faubourg du Temple, dans une petite hostellerie puante qui lui donnait asile. Il y vivait misérablement, sous les espèces d'un sans-culotte, et sans avoir, du moins le croyait-il, attiré l'attention d'aucun de ces innombrables délateurs qui pullulaient dans les recoins de Paris. Chaque matin, il allait faire une promenade assez longue, tantôt vers les Tuileries, tantôt vers le Quartier Latin. Or, un jour du mois d'avril, après avoir lu la Gazette, il tira sa montre et vit avec surprise qu'il était en retard de 10 bonnes minutes sur l'heure de la sortie. Il mit en hâte son bonnet rouge et s'arrêta, s'arma d'un gourdin respectable. Dehors, il s'aperçut que sa montre, qui alors comme aujourd'hui était une merveille d'exactitude, avançait de près d'une demi-heure. Cette circonstance le frappa, mais comme il était philosophe, il l'attribua à un dérangement du mécanisme. 32 ans plus tard, mon grand-père était devenu le possesseur légitime de la montre. L'exigence exigeait alors impérieusement que les horloges de poche fussent plates. Mais Pierre Renens n'avait pas voulu se séparer de cette fidèle servante qui se montrait aussi ponctuelle qu'au moment de sa naissance. En 1825, il dut faire un voyage en Espagne. Il fallut traverser une de ces régions guerrieuses où le brigandage règne à l'état endémique. Généralement, il voyageait à cheval avec une peu petite faible escorte. Le 17 juillet, sa petite caravane se joignit au matin à quelques marchands galiciens bien armés. La région vers laquelle on marchait se trouvait particulièrement sinistre. Au travers d'un plateau qui, en désolation, ne le cédait pas au Sahara, courait une route raboteuse et pleine de fondrières. Partout des croix affichées annonçaient quelques morts violentes de voyageurs. Partout s'étalaient de larges blocs erratiques propres à l'embuscade. Mon grand-père chevauchait depuis une heure, lorsqu'en fouillant dans ses goussets, il s'aperçut avec consternation qu'il avait oublié sa montre. Malgré le danger qu'il courait en quittant la troupe, il n'hésita pas une minute. Il avait pour sa montre la même affection que certaines gens ont pour leurs chiens. Et c'est tout dire. S'étant fait minutieusement décrire le reste de la route, il retourna au galop vers la Venta où il avait laissé sa montre. Aucun compagnon ne le suivait. Il était seul, assez bien monté pour pouvoir rejoindre la caravane. Son excellent cheval Barbe, en verve ce matin-là, regagna la Venta en moins d'une demi-heure. Et notre homme, par le plus grand des hasards, lui rendit incontinent l'objet perdu. Mon grand-père reprit sa route en sens inverse. Et comme ses compagnons avaient augmenté leur avance, il s'écoula quelque temps avant qu'il n'aperçût personne sur la route pierreuse. Enfin, vers un détour, il lui sembla voir un homme appuyé contre une grosse pierre, ce qui le mit en belle humeur. Mais lorsqu'il parvint au coude, le lamentable spectacle que lui avait caché des blocs erratiques lui arracha un cri d'horreur. Les marchands galiciens et l'escorte étaient étendus en travers de la route et du plateau, les uns poignardés ou la gorge béante, les autres fusillés. Quant aux mules, aux chevaux, aux bagages, il n'en restait plus rien. Je ne vous étonnerai pas en vous affirmant que depuis ce jour-là, l'affection de mon grand-père pour sa montre devint un culte. La troisième aventure est d'ordre plus intime. Elle arriva tout bonnement à votre serviteur il y a très peu d'années. En ce temps-là, je me croyais amoureux de Marie D, une jolie fille capricieuse, point mauvaise, et qui était indécise entre 7 ou 8 prétendants. Sans le vouloir, elle me rendait fort misérable car je suis de complexion jalouse. Les hésitations que je lui voyais devant chacune de nous me remplissaient de colère. Elle avait une amie, pour le moins aussi jolie qu'elle, mais si modeste, si réservée, si timide, que, avec l'aveuglement de la jeunesse, je la jugeais totalement indifférente à l'amour. J'éprouvais toutefois pour elle une vive sympathie. Je la jugeais supérieure d'esprit et de manière à ma fantasque amie. Volontiers en aurais-je fait ma confidence, mais je ne l'osais. Et un soir, que je me promenais au faible clair des étoiles, dans notre parc de Mauiron, et que je rêvais avec tristesse, presque avec désespoir, à l'issue de ma passion, je trébuchais contre une pierre. Ma montre jaillit de la poche de mon gilet, et comme elle me tenait à aucune chaîne, elle tomba parmi des fougères. En me baissant pour la ramasser, je sentis, tout à côté d'elle, un objet assez dur et lisse, qui, vérification faite, se trouva être un petit carnet de notes. Un joli petit carnet de jeune fille, relié en maroquin poli. Cette trouvaille me intéressa guère, et je l'avais oublié lorsque je fus me coucher. Et dans ma chambre, en déposant mes menus objets dans le vide-poche, le cahier attira mon attention. Mais à qui cela peut-il être, me disais-je. Les initiales en argent étaient enchevêtrées tellement que cela pouvait bien représenter la moitié des lettres de l'alphabet. Je jetai un regard dans l'intérieur. Mes yeux tombèrent sur une page. Je lus une trentaine de lignes, en quelque sorte, sans m'en apercevoir. Quand je me rendis compte de mon indiscrétion, il était trop tard. Le passage s'était gravé dans mes yeux, car j'ai une mémoire visuelle très tenace. Je l'avais mal compris d'abord, et je compris soudain, comme on comprend une énigme. Le carnet venait de la compagne de Maridé, et j'apprenais qu'on m'aimait d'un amour naïf, charmant, discret et résigné. Je ne puis dire ce qui se passa en moi. Ce fut une brusquerie exquise. La certitude que cette jeune fille était capable d'amour me fit sans transition, 100 fois plus séduisante que Marie, dès je pressais passionnément le petit cahier contre mes lèvres et je remontais ma bonne montre avec un attendrissement extraordinaire. Et quelques mois plus tard, j'épousais la timide amie de Maridé. Et voilà, fit notre hôte avec un sourire, vous trouverez sûrement ces aventures un peu bien fétichistes, mais quand elle ne serait que la suite de pure coïncidence, vous ne vous étonnerez pas de la place que notre montre occupe dans l'histoire de ma famille. Avouez qu'il y a lieu de la vénérer, plutôt que le chapeau d'un conquérant ou le porte-plume d'un écrivain illustre.